Le dévoilement de Dieu numéro 226. L'adoration de Dieu ou du système de la bête deuxième partie. Le 1 août 2021. Brian Kozurek. Pasteur. La semaine dernière nous avons parlé sur le sujet de l'adoration de Dieu ou du système de la bête. Ce matin nous continuerons encore avec ce sujet. Mais je voudrais l'examiner de plus près. Ce que cela signifie vraiment d'adorer Dieu. Parce que Jésus a dit que vous n'aimiez, pouvez pas adorer en dehors de l'esprit et de la vérité. Maintenant, nous savons que Dieu est la vérité et il est la parole. Par conséquent, adorer Dieu en dehors de la parole Néhémie ne va pas vous amener loin. Vous devez impérativement l'adorer dans la vérité. En outre, Jésus a dit que nous l'adorons en esprit et en vérité. Maintenant, les faits sont qu'à moins que vous n'ayez le Saint-Esprit, vous n'aimez et comprendrez pas les choses de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné dans Corinthiens 2.1. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1.1. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne n'est aimé connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 1.2. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Très bien. Alors Paul nous dit ici que ce pourquoi nous recevons l'esprit de Dieu, c'est pour pouvoir connaître et comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas de faire des miracles, ce n'est pas ce pourquoi vous recevez l'esprit de Dieu. De plus, nous n'aimons pouvons rien faire jusqu'à ce que nous voyons Dieu lui-même le faire. C'est ce que Jésus a enseigné. Il a dit, le fils n'aimons peut rien faire de lui-même, il n'aimons fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Par conséquent, ce n'est jamais l'homme qui fait quelque chose, mais Dieu qui produit dans cet homme sa volonté et produit aussi en cet homme de faire. Donc, c'est Dieu voulant et Dieu faisant. Donc, cela se résume à une seule raison pour laquelle nous recevons l'Esprit de Dieu, et c'est pour comprendre les choses de Dieu. Rien de plus, rien de moins. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 2.20 pour vous. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous connaissez toutes choses, version du roi Jacques. Note du trad. Et à nouveau pour confirmer ce qu'il vient de dire au verset 20. Il dit encore au verset 27 pour vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, il est évident que la preuve que vous avez le Saint-Esprit est que vous connaissez et comprenez les choses de Dieu. Comme frère Branham le dit, vous entendrez, reconnaîtrez, comprendrez et puis agirez sur la parole de Dieu. Or dans l'exposé où il dit, exposé des 7 âges de l'Église. L'âge de l'Église de Pergame. Page 164-164-3. Rappelez-vous maintenant, Jean-Baptiste était à la fois le prophète et le messager de son époque. Il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Pendant qu'il baptisait dans le Jourdain, la parole de Dieu, Jésus, est venue à lui. La parole vient toujours à ceux qui sont véritablement remplis de l'Esprit. C'est là la preuve qu'on est rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit que ce serait là la preuve. Il a dit, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde n'aimait peut recevoir. Or, nous savons ce qu'est la vérité, ta parole est la vérité. Jean 17.17b. Et encore dans Jean 8.43, « Pourquoi Néhémie comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous, Néhémie, pouvez écouter ma parole. » Avez-vous remarqué que Jésus dit que le monde Néhémie peut pas recevoir le Saint-Esprit ? Eh bien, je viens de lire dans ce verset qu'une Néhémie peut pas non plus recevoir la parole. Pourquoi ? Parce que l'Esprit et la parole sont un. Et que si vous avez le Saint-Esprit, comme l'avaient les prophètes, la parole vient à vous. Vous la recevez. Dans Jean 14.26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ici encore, nous voyons que la parole vient à cause de l'Esprit de Dieu. Et de nouveau dans Jean 16.13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, la parole. Il vous conduira dans toute la vérité, ta parole est la vérité. Car il Néhémie parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, la parole de Dieu, et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit apporte la parole de prophétie. Je voudrais que vous remarquiez bien que Jésus n'a pas dit que la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est de parler en langue, d'interpréter, de prophétiser, ou de crier et de danser. Il a dit que la preuve serait qu'on se trouve dans la vérité, qu'on se trouve dans la parole de Dieu pour notre âge. La preuve consiste à recevoir cette parole. Maintenant, revenons à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2.13 et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1.4 Mais l'homme animal Néhémie reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et Néhémie peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Autrement dit, elles n'y sont discernées que par ceux qui sont remplis de l'Esprit. Au paragraphe 105 du sermon de frère Branham, Dieu dévoile le frère Branham, dit, 105 dans l'Ancien Testament, Dieu était caché, tiré quand il était sur son propitiatoire. Sur le propitiatoire, tiré par un voile. Dans l'Ancien Testament, Dieu était dans son temple. Mais les gens entraient et adoraient comme ceci. Mais, souvenez-vous, il y avait un voile, amen, qui cachait Dieu. Il savait que Dieu était là. Mais il Néhémie pouvait pas le voir. Cette colonne de feu n'est plus jamais réapparue là. L'avez-vous remarqué? Pas une seule fois, dans les Écritures, depuis le moment où cette colonne de feu est rentrée derrière ce voile, elle Néhémie s'est montrée de nouveau, jusqu'à ce qu'elle est revenue par Jésus-Christ. Dieu était voilé. Son Fils quand il était sur terre, il a dit, « Je viens de Dieu, et je retourne à Dieu. » Son sept ensuite, Paul, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, en route vers Damas, voilà cette colonne de feu qui était là de nouveau. Qu'était-ce ? Elle était sortie de derrière le voile. Gloire à Dieu. 108 Il avait été derrière le voile. Maintenant, il est très évident que les gens adorent un Dieu qu'ils Néhémie peuvent voir, et donc ce qu'ils Néhémie comprennent pas. Et nous entendons Jésus lui-même dire aux gens de Samarie dans Jean 4.22 « Vous adorez ce que vous Néhémie connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Puis Jésus leur dit au verset 23 « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » 1.2.4 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Il a dit il faut l'adorer en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'en dehors de la vérité votre adoration sera en vain. Dans les évangiles de Matthieu et de Marc, Nous avons entendu Jésus nous dire qu'il est impossible d'adorer Dieu en vain. Et dans les deux évangiles, Jésus nous dit ce qui rend vaine l'adoration de Dieu. Matthieu 15.9 S'est-ce en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et les préceptes sont des statuts et des règlements des hommes. Autrement dit, ils mettent les règles et les statuts de l'Église au-dessus de ce que déclare la parole de Dieu, et ainsi cela contredit complètement leur adoration, car en dehors de la parole de Dieu, Dieu n'acceptera pas votre adoration. À nouveau, nous lisons dans Marc 7.7 S'est-ce en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Par conséquent, si votre adoration est en vain, c'est-ce considéré par Dieu être inefficace, infructueux, ou futile, et sans un vrai sens, une vraie valeur, ou importance. Autrement dit, puisque c'est-ce sans fondement, c'est aussi sans vraie valeur, maintenant, cela nous amène à une meilleure compréhension de ce que le mot adorer, worship, signifie vraiment. Parce que le mot worship, adorer, selon les dictionnaires et American Heritage Dictionary et The Webster's Dictionary, worship, adorer, vient du mot worship. Worth signifiant la valeur ou l'estimation que nous attribuons et le suffixe, ship signifiant l'état ou la condition d'être. Par conséquent, en dehors de la parole de Dieu, le worship, l'adoration, n'a pas de valeur pour Dieu. Cela devient alors juste l'acte de l'homme qui, comme tant d'autres actes que l'homme pose, est sans valeur aux yeux de Dieu. Or la semaine dernière, nous avons commencé à lire dans le livre de l'Apocalypse 13.2 « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. » Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils étaient stupéfiés. C'est-ce quand la Rome païenne Esther morte et Esther revenue comme la Rome papale. Et remarquez ce que cette stupéfaction a produit. 4. Ils adorèrent le dragon. Ça. C'est-ce le diable, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. La puissance politique, ils adorèrent la bête. Ils ont valorisé cette grande puissance politique en disant, qui est-ce semblable à la bête? Qui est-ce semblable à cette puissance politique et qui peut combattre contre elle? Il Néhémie pouvait pas la comparer avec aucune autre puissance politique. Et il Néhémie pouvait pas s'empêcher de regarder sa richesse et ses possessions foncières. Et son contrôle des puissances mondiaux. Et ce faisant, ils ont attribué une grande valeur sur ce qu'elle a fait. Au lieu de lui faire passer le test de la parole, et montrer comment elle a enfin accumulé toute cette puissance et cette richesse en profitant des pauvres et des incultes. Elle peut être une puissante institution, et elle peut être une puissante organisation, mais elle est aussi anti-parole et donc, anti-Christ. Mais je crois qu'aujourd'hui beaucoup de gens n'y sont pas trompés, par cela et comme le dit la Bible. Qui peut combattre contre elle? Autrement dit, nous savons comment elle est arrivée à posséder sa richesse et sa puissance mondiale. Mais que peut-on y faire? Qui peut combattre contre elle quand elle est protégée par l'image même qui a été faite à sa ressemblance? Qui sont les yeux avec ses cornes civiles et ecclésiastiques, comme nous le lisons au verset 11 qui suit. Mais d'abord, continuons à lire au verset 5, « Et il lui fut donné une bouche, la papauté, qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Cela fait 3 ans et demi de tribulation, si c'est elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel, sainteté il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, huit et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, neuf et si quelqu'un des oreilles, qu'il entende. Dix si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est-à-dire ici la persévérance et la foi des saints. Donc, vous voyez que ce que Jean a vu est identique à ce que Daniel a aussi vu dans la vision nocturne de Daniel 7 que nous avons lu la semaine dernière. Maintenant, avançons dans Apocalypse 13 et lisons à partir du verset 11 « Puis je vis monter de la terre une autre bête, maintenant, remarquez, cette bête, cette puissance politique n'est mise monte pas des nations, des peuples d'une multitude de langues. C'est-à-dire les États-Unis qui montent de la terre, qui avaient deux cornes à la fois civiles et ecclésiastiques. Les Nations Unies et le Conseil Mondial des Églises sont tous les deux situés dans la ville de New York, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Semblable à un agneau veut dire qu'elle ressemblait à une nation chrétienne, mais elle n'est mise par le certainement pas comme une nation chrétienne. Elle parle comme le diable en personne, avec ses trucs sodomines de LGBTQRSTUV et ses avortements, et sa culture de la drogue, et tous ses leaders politiques se prostituant dans sa capitale. Oh! Elle ressemble à la mère prostituée en personne. 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Remarquez, ce n'est pas une femme, une église, mais une autre bête, une autre puissance politique, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Remarquez, c'est les États-Unis qui fait que le monde adore la première bête, Rome, et sa ville Vatican. Or, gardez cela à l'esprit parce que nous allons examiner cette adoration et ce que Sester et ce que cela signifie. 13. Elle, pas une femme, pas une église, mais un pays, une puissance politique qui semble être chrétienne mais qui parle comme le diable, opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Voilà tous vos programmes de l'espace qu'on voit à la télévision internationale. Faux. Tout est faux ou truqué. C'est le principal attribut du temps de la fin. Tout de l'homme est faux ou truqué. Et si Satan contrôle tous les gouvernements du monde, ce que Jésus a admis être vrai, alors pourquoi le père du mensonge dirait-il quelque chose de vrai? Non monsieur. Nous n'y sommes pas un peuple crédule. Je n'y crois rien de ce qu'un gouvernement nous dit. Souvenez-vous, la séduction est destinée à la crédulité de ceux qui périssent. C'est ce que de Thessaloniciens 2 nous dit. La traduction vue est dit que cette séduction est destinée à la crédulité de ceux qui périssent et que cette crédulité est causée par le fait qu'ils n'avaient pas d'amour pour la vérité. De Thessaloniciens 1.10-12 de toutes sortes de séductions méchantes adaptées à la crédulité de ceux qui périssent. Cette crédulité étant causée par le fait qu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité jusqu'au bout afin qu'ils puissent être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une influence illusoire ayant pour résultat de leur faire croire au mensonge, afin que puissent être jugés tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à la méchanceté. Et quel était le mensonge? C'était le mensonge que le serpent a dit à Ève, « Vous n'y mourrez point ». Et n'est-ce pas le même mensonge que l'on raconte aujourd'hui au monde? Prenez ce vaccin expérimental qui, soit dit en passant, n'est-ce pas vraiment un vaccin, mais c'est-ce une thérapie génétique et vous n'y mourrez point? Et le serpent n'a-t-il pas donné de thérapie génétique à Ève? Et que lui est-il arrivé? Le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. Donc elle a pris la parole du docteur serpent et a perdu la vie, et a fait que la maladie et la mort entrent dans le monde. Pourquoi? Parce que les gènes ont été modifiés, d'humain à transhumain, mi-chemin mi-chebête. Donc, si l'illusion est adaptée à leur crédulité, cela signifie que l'illusion a été conçue pour convenir à leur crédulité. Et les gens du monde sont dans l'état le plus crédule que je n'ai jamais connu de mes 68 ans d'existence. Des gens très instruits mais totalement crédules et incapables d'avoir une pensée juste. Et la formulation du docteur Vuestici est parfaite, ceux qui périssent sont adaptés à leur propre crédulité qui, si vous comprenez ce qu'est un mécanisme, il est fait de manière telle qu'il s'adapte à l'illusion crédule. Et dans l'épître romain, Paul a dit, Romains 9.22 et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, maintenant, Apocalypse 13.14 et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges, signes, qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée, la parole de Dieu, et qui vivait. 15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussant une marque, un signe, sur leur main droite ou sur leur front, 17 Et que personne n'ait mis pu acheter ni vendre, sans avoir la marque, un signe, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Il est intéressant de noter que la marque de la bête apparaît pour la première fois dans la Bible au 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, comme nous l'avons vu au verset 7-10 et 16-17. Apocalypse 13.7 « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Huit et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. 9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Apocalypse 13.16-17 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussant une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne n'ait mis pu acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et ce n'est-ce pas un hasard, si la marque ou le signe de la bête est promue par les États-Unis, la bête qui monte de la terre et qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon, le diable. Qui est identifié dans Apocalypse 13. C'est ainsi que la bête qui monte de la terre, les États-Unis, donne le pouvoir à la bête qui est Rome. Permettez-moi d'abord établir ce fait. Hébreux chapitre 4 dit 1er septembre 57 et 103 avez-vous, remarquez que les États-Unis ont le nombre 13 dans tout ce qu'ils font? Savez-vous qu'ils étaient constitués de 13 colonies? Savez-vous qu'au début, le drapeau avait 13 étoiles? Je voudrais aussi dire qu'il y a 13 rayures dans notre drapeau, et examinez le dollar américain. Il y a 13 flèches dans les serres de l'aigle, 13 étoiles, 13 branches d'olivier, 13 barres dans le bouclier, tout est 13. Et on la trouve dans le livre de l'Apocalypse au, chapitre 13. Savez-vous que tout ce que font les États-Unis, c'est par le nombre 13? Saviez-vous qu'ils apparaissent dans la Bible dans Apocalypse 13? Certainement qu'il en est ainsi. La petite bête, l'agneau qui monte de l'eau, non pas d'entre la multitude et les foules des gens, non pas de l'eau, mais d'une terre où il n'y a personne. Elle avait deux petites cornes, les pouvoir civil et ecclésiastique. Et c'était un agneau, la liberté de religion. Mais après un certain temps, ils se sont unis et ils parlaient, comme le dragon exerçait toute l'autorité que Rome exerçait, en sa présence. Cela arrive à notre nation. Notez-le bien. Prêtez donc attention à la Confédération des Églises et à l'Église catholique qui s'unissent, et observe ce qui se passe. 104 Les gens qui suivent la colonne de feu passeront certainement des moments difficiles, mais ils seront prêts pour l'enlèvement à ce moment-là. C'est vrai, bien prêt à partir, car l'agneau les a vaincus, dit la Bible, et ceux qui le suivaient aussi, car ils étaient les appelés, les élus et les fidèles, les élus de Dieu. Or, ce chapitre parle d'une bête qui monte de la terre et donne pouvoir à la bête qui monte des eaux, que nous savons être Rome comme Jean nous l'a dit très clairement dans Apocalypse 17. Nous voyons aussi dans Apocalypse 14.9-10, Jean parle des gens qui ont reçu la marque, le signe de l'adoration de la bête et de son image. Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, dit-il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et nous voyons encore Apocalypse 16.2 le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Et nous voyons que ces gens qui ont la marque, qui estèrent un signe ou un témoignage de la bête, sont les gens séduits dans Apocalypse 19.20 et la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et comment les ont-ils reçus? Nous avons déjà lu la réponse dans Apocalypse 18.23, parce que tes marchands et les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Les produits pharmaceutiques, ainsi les hommes prennent le conseil d'autres hommes, au lieu du conseil de Dieu dans ses paroles. Et la médecine pseudo-expérimentale de l'homme est plus valorisée que la sainte parole de Dieu. Et ce faisant, ils refusent ou disent non au Dieu qui guérit toutes nos maladies. Pensez-y. Voici une maladie qui n'est émise qu'une personne sur 1000, soit 99,997 personnes qui la contractent vont bien se porter sans traitement. Et pourtant on a convaincu le monde de prendre un vaccin expérimental, qui n'est pas un vaccin, car il n'y a pas de virus ou même des parties de ce virus à l'intérieur, et on les a convaincus de suivre cette thérapie génétique dont ils savent qu'elle cause toutes sortes d'effets secondaires et même la mort, et on leur a dit que cela en valait la peine afin de revenir à la normale. Maintenant, quel genre de fou croirait ça? Oh! Environ 50% des gens. Ainsi, l'échelle est maintenant changée et il y a plus de fous dans le monde que ce qui était considéré comme normal. La folie du temps de la fin bat son plein. Et comme frère Branham a qualifié le monde à son époque d'une maison pestiférée, pouvez-vous imaginer à quel point cette condition est légère par rapport à ce que nous voyons maintenant en cette heure? Tout ce que je peux dire, c'est que les gens doivent avoir un désir de mort, et frère Branham m'a dit qu'au temps de la résurrection régnerait comme une atmosphère de suicide. Et je vois cette atmosphère partout. Des gens font des choses étranges et mortelles, et continuent ainsi comme une meute d'animaux sauvages, brûlent leur quartier. Pourquoi? Tout ce que je peux dire, c'est la folie du temps de la fin. On lit toute une liste d'effets secondaires terribles et cependant les gens pensent toujours qu'ils en ont besoin pour les sauver d'un résultat fictif. Ils disent : nous voulons revenir à la normale. Comment être prêt à mourir? Esther revenir à la normale? Esther est normal de prendre une thérapie de gène expérimentale? Vous voyez à quel point les gens se font des illusions? Ils sont complètement délirants. Et la grande illusion dont Paul parle dans 2 Thessaloniciens 2 Esther, ce dont nous sommes témoins en ce moment. Et pourquoi les gens délirent? Parce qu'ils ont refusé la vérité. Le dictionnaire Webster définit psychotique comme le fait d'avoir des croyances ou des opinions fausses ou irréalistes, et en psychiatrie. Le fait de maintenir de fausses croyances arrêtées même lorsqu'elles sont confrontées à des faits, généralement à la suite d'une maladie mentale. Alors que j'ai prêché sur la folie du temps de la fin les 3 derniers mois de 2019, juste avant de prêcher sur les fléaux du temps de la fin en janvier 2020, juste avant le début de la guerre bactériologique, et nous avons vu la guerre bactériologique et nous avons vu la folie du temps de la fin chez les gens, comment ils accepteraient des propos complètement instables et souvent totalement contradictoires de la part des autorités sanitaires, ce qui montre non seulement une collusion entre elles, mais une folie totale parmi les gens d'accepter ce qu'on leur dit comme des faits, puis des non-faits, et puis des faits à nouveau. Déversant des mensonges, puis nions les avoir dit, puis revendiquant à nouveau ces mensonges comme étant la vérité. Nous le voyons tous les jours, et je m'étonne encore de la façon dont Dieu a dirigé notre pensée, montrant d'abord la folie du temps de la fin, puis nous faisons prêcher sur les fléaux du temps de la fin et sur la guerre bactériologique et la dépression qui s'en suivra. Tout cela avant que ces choses Néhémie commencent à se produire. Mais les pas des justes sont ordonnés par le Seigneur. Et je pense qu'il est très intéressant, alors que les temps de la fin sont inaugurés par le Fils de la justice qui se lève avec la guérison sous ses ailes, qu'ils ont été inaugurés par la guerre bactériologique et l'aveuglement complet des peuples à accepter le mensonge comme étant la vérité. Alors que Malachi 4 commence avec Dieu descendant avec une grande campagne de guérison pour attirer notre attention, puis vient un cri de commandement pour nous préparer pour le temps de la résurrection, et alors arrive la destruction. Comme le dernier âge de l'Église a commencé avec des campagnes de guérison, et des centaines de milliers de personnes se tournaient vers Dieu, et Dieu seul, pour leur guérison, l'âge s'achève maintenant avec des gens qui se tournent vers les hommes, des menteurs complets et des escrocs, pour les sauver. Ils n'aiment ceux, tournent plus vers Dieu pour les guérir, mais ils ont pris un substitut à la place de l'authentique guérison qui vient de Dieu seul. Et donc ils ont pris à la place la technologie de l'homme breveté W.O. pour l'ordre mondial 2,020,060,606. C'est Esther le numéro de brevet pour la thérapie génétique que les gens prennent, et puis Néhémie veulent pas l'appeler la marque de la bête. Mais Esther sait pas exactement ce que Cain a fait. Il a refusé la voie pourvue par Dieu et a choisi sa propre voie. Et ce faisant, il a reçu la première marque de la bête. Nous avons parlé plutôt de ce que frère Branham a dit lorsqu'il a prêché sur la marque de la bête 27 février 61. Il dit, 14 et bien. J'ai dû prendre tous les deux sujets et les exposer à la fois, parce qu'ils sont comparables l'un à l'autre. Ainsi la marque Esther comparable au signe, parce que le signe apporte la vie de Dieu dans le croyant et les marques de la bête apportent la vie de la bête dans l'incroyant grâce à sa thérapie génétique. Mais je n'ai souhaite pas revenir là-dessus aujourd'hui parce que ce sermon parle de ce qu'Esther cette adoration qui fait que les gens adorent la bête et son image. C'est Esther pour moi une caractéristique identifiable des gens du temps de la fin qui prennent cette marque de la bête. Alors lisons Apocalypse 20.4 « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Maintenant, nous voulons examiner ce mot adoration, parce que la différence entre ceux qui ont pris la marque et ceux qui n'aimaient l'ont pas pris se résume à adorer ou à n'aimer pas adorer la bête, l'église catholique ou son image, les États-Unis. Le mot grec pour adorer Esther, proskuneo qui signifie lécher la main comme un chien. Comme les gens qui sont disposés à recevoir le vaccin pour un hamburger gratuit, ou pour avoir leur nom dans une loterie. Pavlov nous a beaucoup enseigné sur le fait d'utiliser le stimulus pour faire aux chiens certaines choses, et notre gouvernement a appris à utiliser le stimulus pour faire la même chose. Faites-leur passer l'examen de stimulus et vous pouvez contrôler leur colère par rapport à ce qui se passe. Ça marche à chaque fois. Quelle honte. Nous voyons que tout celui qui a la marque adore la bête et son image, tandis que ceux qui reçoivent la vinémie l'adorent pas. Donc, pour comprendre ce mot adoration, allons dans nos Bibles à Matthieu 13.45 nous lisons « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Car on ne sait s'il a trouvé une perle de grand prix, et il espérait aller vendre tout ce qu'il avait, et l'a acheté. Or, dans cette parabole, l'homme tenait ce trésor en si haute estime ou lui accordait une si grande valeur, qu'il l'estimait plus que tout ce qu'il avait accumulé tout au long de sa vie jusqu'à ce moment-là. Jésus nous dit qu'il a vendu tout ce qu'il avait pour gagner ce trésor. Par conséquent, nous examinons les mots valeur et estime, et cette pensée du plus grand trésor, qui est la vie éternelle. Et Jésus a dit là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Dans son sermon l'Éden de Satan dit 29 août 65 frère Branham dit, 18 le Dieu de ce monde aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir, mais c'est Satan qui se fait passer pour l'Église, voyez-vous, pour l'Église. Ils adorent Satan, pensant qu'ils adorent Dieu au travers de l'Église, mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Oh, dites-vous, mais, un instant, nous prêchons la parole. Revenez ici à mon texte de ce soir. C'est Satan qui, le premier, a prêché la parole à Ève, Dieu a dit. Voyez-vous, il s'agit de la mauvaise application de la portion des Écritures qui se rapporte au jour. Et rappelez-vous, frère Branham nous a dit que comme il ne pouvait pas promouvoir la marque par la religion, ils utiliseront la politique. Et aussi dans son sermon La religion de Jézabel dîme 19 mars 61 il dit, 97 puis un jour, après que le péché avait fait ses victimes, et que Dieu avait mis son peuple à genoux, Jézabel prit tout, elle balaya tout, et elle le fera encore. Esther ainsi dit la Sainte Bible de Dieu. Elle le fera encore. Elle Esther juste sur le trône maintenant, derrière l'homme de paille, tordant la chose à sa guise. Et personne n'aimé va l'en empêcher. Non. Non. Personne n'aimé va l'en empêcher maintenant. Parce que ce qu'il n'aimé pouvait pas obtenir dans les milieux religieux, alors, ils ont eu tout cela dans la politique, et ils l'ont fait là-bas. Alors, où l'ont-ils fait? Il a dit qu'ils le feront dans la politique. Bien que l'Église catholique soit une religion organisée, elle introduira son pouvoir dans la politique, et alors l'optique deviendra très claire. Puis frère Branham poursuit en disant, oui, oui, c'est exactement ce qu'ils ont fait. En fait, la politique sera un boycottage et qu'est-ce qu'un boycottage? C'est la cancel culture ou une sorte d'ostracisme, d'exclusion, qui va carrément les ramener à la marque de la bête. Aussi vrai que je me tiens debout ici. Voyez? Et la Bible l'a dit. Or, ce sont ses paroles, pas les miennes. Alors qu'est-ce ce qui amène le boycott, ou cancel culture? C'est la politique. Et qu'est-ce que cela produit? Il dit, qui va carrément les ramener à la marque de la bête. Aussi vrai que je me tiens debout ici. Voyez? Et la Bible l'a dit. Vous voyez? Qu'est-ce qu'un boycott? Ce n'est rien d'autre qu'une cancel culture ou une sorte d'exclusion. Et le monde est rempli de cancel culture aujourd'hui, ce qui n'est rien d'autre que le boycott dont parlent les saintes écritures et qui doit accompagner la marque de la bête. Vous Néhémie pouvez pas voyager? Vous Néhémie pouvez pas aller au théâtre? Vous Néhémie pouvez pas aller à l'église? Vous Néhémie pouvez pas sortir manger? Vous Néhémie pouvez pas avoir de travail? Vous Néhémie pouvez pas prendre l'avion ou le train? Vous Néhémie pouvez pas laisser vos parents surveiller vos enfants? Tout cela s'appelle boycotter. Mes frères et sœurs, et Néhémie l'ont tout simplement pas encore intensifié au point de prendre votre vie pour vous neutraliser complètement. Mais ils le feront un jour. Mais nous serons partis quand cela arrivera. Mais c'est pour très bientôt. Alors assurons-nous simplement que nous sommes prêts dans notre âme pour la prochaine phase de la parousia de Dieu, qui est le temps de la résurrection. Par conséquent, lorsque nous considérons cette adoration, nous devons comprendre ce que Jésus a dit, « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Là où est la chose que vous estimez comme étant la chose la plus précieuse, c'est là aussi que sera votre cœur. Maintenant, dans notre dictionnaire, Webster nous dit que le mot valeur est une quantité de biens, de services ou d'argent, considéré comme étant un équivalent juste et convenable pour autre chose, et donc l'homme était prêt à vendre tout ce qu'il avait pour acheter le champ afin d'obtenir le trésor caché. De même, les gens considèrent que prendre sa thérapie génétique est une valeur équivalente pour revenir à la normale. Seulement comment revenir à la normale une fois marqué par sa thérapie génétique? Votre vie Néhémie sera jamais plus la même. Dans la parabole, l'homme était prêt à vendre tout ce qu'il possédait pour obtenir une perle de grand prix. À présent, rappelez-vous, Jésus nous dit que le royaume des cieux est comme l'homme qui est prêt à tout vendre pour gagner le royaume. Nous examinons donc si la chose que l'homme estime sera la même chose lorsqu'il s'apprêtera à établir son royaume. Le royaume est très apparent dans ces deux paraboles que Jésus nous raconte. La valeur du royaume des cieux vaut plus que tout ce que nous avons dans cette vie. Maintenant, examinons ce mot valeur, value, en anglais, pendant un instant. Nous savons que le mot valeur parle d'une comparaison entre deux choses. L'un est l'objet ou la chose, et l'autre est le prix que nous sommes prêts à payer pour l'obtenir. Je veux donc que vous gardiez à l'esprit cette pensée de Wörth, valeur, en français, car il y a quelque chose de spécial dans ce mot qui nous rapproche un peu plus du royaume, et c'est le mot Wörth, valeur, qui est en fait la racine du mot worship, adoration. En français, quand nous parlons de Wörth, valeur, nous parlons de la qualité de la chose qui rend ce quelque chose séduisant, tentant, utile ou précieux. Or, il se trouve que le mot worship, adoration, selon les dictionnaires New World Dictionary de Webster et l'American Heritage Dictionary, vient de la combinaison des deux mots, Wörth et ship. Wörth parle de valeur et ship est le suffixe qui est utilisé pour exprimer la qualité, la condition ou l'état d'être. Par conséquent, lorsque nous parlons de worship, adoration, nous parlons de la valeur que l'on accorde à l'objet de notre adoration, et donc la qualité, la condition ou l'état de cet objet dans lequel nous désirons attribuer de la valeur. Ainsi, lorsque nous entendons Jésus parler du royaume des cieux, la vie éternelle, comme étant d'une si grande valeur que nous dépensons tout ce que nous possédons pour l'obtenir, nous cherchons essentiellement quelque chose qui exprime la vraie worship, adoration. En d'autres termes, Nous examinons la qualité qui est telle que nous y attachons un très grand prix. Et en fait, supérieur à tout ce que nous avons possédé dans la vie. La condition de ce royaume des cieux est telle que nous sommes plus que disposés à mettre tout le reste de côté pour l'obtenir. Et l'état d'être est tel que nous sommes concentrés sur un seul objectif et avons évalué le coût et avons trouvé que le coût était une estimation juste de sa vraie valeur. Ainsi, nous découvrons que le royaume des cieux, la vie éternelle, est la chose la plus précieuse à obtenir, et l'est en fait un lieu où l'état de valoriser. En fait, c'est cela l'adoration. Beaucoup de gens ont une fausse idée de ce qu'est l'adoration. Ils pensent seulement en termes de se prosterner devant un objet ou une divinité, ou de chanter des chants de louange à cet objet ou divinité. Mais selon la définition correcte du mot, qui correspond assez bien à ce que Jésus enseigne ici dans ses paraboles, le royaume des cieux est un lieu où nous connaissons la vraie valeur et comment l'appliquer. Le royaume des cieux est donc un lieu de valorisation. C'est un lieu où nous aurons une vraie compréhension de la valeur de la parole de Dieu. La valorisation, l'état de, la qualité de, ou la condition dans laquelle nous appliquons la valeur a. Par conséquent, nous parlons en fait de valeur marchande. La valeur que nous attribuons à quelque chose. Maintenant, pour connaître la valeur, vous devez connaître la chose évaluée. Si vous ne connaissez pas la chose que vous évaluez, comment pouvez-vous honnêtement lui attribuer sa juste valeur? C'est le problème que Jésus expliqua au Samaritain. Il dit vous valorisez ce que vous ne connaissez pas. Vous attribuez vos valeurs aux mauvaises choses. Mais le royaume de Dieu, la vie éternelle, est une condition où on a enseigné aux gens la vérité dans leur esprit. Et non seulement ils ont été correctement enseignés, mais ils ont assimilé ce qu'on leur a enseigné. Jésus dit dans Jean 6.45 qu'il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Oh, je souhaite juste que les gens comprennent mieux certains de ces mots comme la doxa de Dieu, parce que la doxa de Dieu est traduite par gloire, et c'est ce qu'est l'Esther, mais son sens réel est les opinions, l'estimation ou les valeurs et les jugements de Dieu. Et quand nous estimons ses pensées au-dessus des nôtres, et que nous recevons ses pensées et que nous chérissons ses pensées, quand nous faisons tout cela, cela s'appelle la valorisation. Par conséquent, notre valorisation a aussi un rang. Et ce rang est le résultat de l'ordre dans lequel nous plaçons Dieu. Il doit avoir la prééminence dans nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Alors, toute autre personne devrait être moindre que lui car s'il est le souverain, il est premier en rang, premier dans l'ordre, et premier en classe sociale. C'est pourquoi Néhémie peut pas comprendre comment les gens peuvent être si stupides quand ils ne donnent pas à Dieu la première place dans leur vie. Vous voyez, Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et vous ne pouvez pas l'adorer en vérité si vous ne connaissez pas ce qu'est la vérité divine. Car l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 2 que personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu en lui. Et sa vérité, c'est sa doxa, qui sont ses opinions, ses valeurs et ses jugements. C'est la vraie valorisation. Dans Matthieu 22.36, quand on demande à Jésus quel est le plus grand des commandements, il répond, d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Mais dans Marc 12.30-33 il ajoute un autre ingrédient, et c'est la force. Nous découvrons que Dieu lui-même nous en parle dans le livre de Deutéronome 6.4-18. Donc en fait, quand Dieu parle dans sa parole de l'aimer de tout notre cœur, il parle de l'aimer de toute notre compréhension. Alors quand il parle de l'aimer de toute notre âme, il parle de l'aimer avec tout ce que nous sommes en tant que personne, parce que notre âme, c'est-à-dire ce que nous sommes, c'est-à-dire notre vie, notre souffle et notre être. Puis finalement, il nous dit de l'aimer de toute notre puissance ou de toutes nos forces, ce qui revient à dire, de toutes nos énergies. Car, nous pourrions dire que nous l'aimons et peut-être même dans notre compréhension, et avoir dans notre être un amour pour lui qui supplante notre amour pour toute autre chose, mais s'estère toujours en deçà de ce que Dieu veut. Il veut que nous mettions toutes nos énergies dans cet amour. Il a dit, enseignez les diligemment à vos enfants. Cela demande un effort, et cela montre votre amour pour Dieu. Car quelle femme aimerait un homme, et n'aimer le lui montrerait jamais. Elle peut dire, je t'aime, mais s'il n'y a pas de manifestation extérieure de cet amour, alors Sénéemi signifie vraiment pas grand chose. Car l'amour en soi est par nature un sacrifice de soi. Paul nous dit que l'amour est patient. Et il est bon. Et il n'en vit pas. Et il n'émit son fleu pas d'orgueil. Et n'émit se comporte pas de manière inconvenante. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas facilement provoqué. Il n'émit pense pas au mal acquis. Il n'émit se réjouit pas dans l'iniquité. Mais seulement dans la vérité, il supporte tout, espère tout, et endure tout, et il n'échoue jamais. Maintenant, que dit-il? Cet amour est quelque chose qui est très difficile à posséder parce que vous n'aimez, pouvez pas l'avoir en le gardant pour vous-même. Vous devez le donner pour le posséder. Et c'est ce que ces hommes ont fait dans cette parabole que nous avons lue ce soir. Ils ont donné tout ce qu'ils possédaient pour obtenir le trésor caché et la perle de grand prix. Vous devez exercer les énergies que vous avez dans le processus de montrer cet amour, et cette adoration appropriée ou la valeur appropriée attribuée à l'objet de votre adoration. Cette démonstration appropriée de votre amour et de votre dévotion envers la personne la plus précieuse de votre vie, votre Dieu. 1 Chronique 6:9 Rendez à l'Éternel gloire pour Dua. Selon le roi Jacques. Note du Trad. Son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Psaume 96:8 Rendez à l'Éternel gloire pour Dua. Son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. 9 Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Et donnez à Dieu la gloire qui lui est due. Montre que nous lui donnons le prix exact qu'il veut. Et cessez à adorer ou donner la valeur exacte de l'objet de notre adoration. Remarquez que la parole proclame que notre adoration doit montrer la valeur que nous donnons au Seigneur. Il est dit, psaume 29:2 Rendez à l'Éternel gloire pour Dua, son nom. Ou qui va avec ses valeurs? Prosternez-vous devant, valorisez l'Éternel avec des ornements sacrés. Il est un Dieu saint? Alors donnez-lui un saint sacrifice. Romains 12:1 Par conséquent, je vous exhorte, frères, en vue de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saint et agréable à Dieu, c'est-à-dire votre acte spirituel d'adoration. De Néhémie vous conformez plus au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Alors, quand? Après que votre pensée a été renouvelée, alors vous pourrez tester et approuver quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Dans Matthieu 15:7 Jésus dit, hypocrite, et nous savons que les hypocrites sont ceux qui savent devoir faire une chose et ils n'aimés veulent pas le faire et ils n'aimés le feront pas. Ou ils savent n'aimés pas devoir le faire mais ils le font quand même. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, 8 ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Car là où Esther ton trésor, là aussi sera ton cœur. Missile nous dit que les cœurs de ces hommes sont loin de lui. Cela devrait vous faire savoir qu'ils n'estèrent pas le trésor de leur cœur, et donc leur adoration ou l'estimation qu'ils font de lui est fausse. Un faux acte. Comme tant de soi-disant chrétiens adorent ou donnent une fausse estimation de lui aujourd'hui. Jésus poursuivit en disant que leur adoration ou l'estimation qu'ils font de leur objet d'adoration est vaine. Ça veut dire que Esther est insignifiant, parce qu'elle ne représente pas la vraie valeur de Dieu. 9 Esther en 20 qu'il m'honore, m'adore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Et comme leur adoration, ou la valeur qu'ils donnent de l'objet de leur adoration, n'atteint pas la vraie valeur, alors elle est rejetée comme étant en vain. Tout comme l'homme qui propose un prix très inférieur du produit qu'il veut acquérir, son offre est rejetée. Nous lisons encore dans Marc 7.6 Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. 7 Esther en 20 qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. 8 Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. 9 Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. Remarquez ici que Jésus dit qu'ils me valorisent en vain parce qu'ils ont élevé leurs pensées au-dessus des pensées de Dieu. Il dit qu'ils mettent de côté la parole de Dieu en faveur de leur tradition. Et ils enseignent pour doctrine leur tradition et mettent de côté les commandements de Dieu, qui devraient être enseignés pour doctrine, et qui apportent la vie éternelle à ce qui est temporaire et de bien moindre valeur. Dans Jean 4.22 Jésus a dit, vous valorisez ce que vous n'aimez connaissez pas. Nous adorons ou estimons la valeur de ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Maintenant, si vous n'aimez connaissez pas ce que vous adorez ou ce dont vous estimez la valeur, et vous n'aimez savez pas sa vraie valeur, alors cela signifie très peu pour vous. Comme le garçon qui a trouvé un timbre et l'a vendu pour acheter un cornet de glace, et l'homme à qui il l'a vendu pour des millions de dollars, parce qu'il en connaissait la valeur. Alors comment pouvez-vous adorer ou estimer la valeur correctement si vous n'avez aucune idée de la valeur de celui que vous valorisez? Si vous n'y connaissez pas quelle valeur lui attribuer, alors comment pouvez-vous attribuer la valeur juste à votre adoration? 23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alors, comment montrons-nous notre adoration ou notre juste estimation à Dieu? Nous prenons le Fils de Dieu pour exemple. Il a dit, le Fils n'a mis peut rien dire d'autre que ce que le Père lui a commandé de dire, et le Fils n'a mis peut rien faire d'autre que ce que le Père lui a d'abord montré. Et il a dit, ma doctrine n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. Et il dit, je n'y suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi nous posons la question, comment pouvons-nous connaître quelle est la vraie valeur de Dieu en tant que notre Père? Eh bien, nous disons ce que Dieu dit, nous pensons ce que Dieu pense et nous faisons ce que Dieu dit de faire. Nous n'émitenons pour doctrine que ce que Dieu nous a donné. Et surtout, nous abandonnons notre volonté et recevons la volonté du Père. C'est ainsi que nous montrons la juste valeur de Dieu. C'est ainsi que nous montrons que nous plaçons la parole de Dieu et ses pensées au-dessus de nos pensées et de nos paroles. Et il n'y a aucun moyen que nous puissions vraiment valoriser Dieu en dehors de l'esprit et de la vérité. Et remarquez que Jésus nous dit qu'il viendra un temps où nous valoriserons Dieu comme notre Père. Alors, comment montrons-nous les valeurs appropriées à un Père? En lui obéissant complètement comme le Fils de Dieu. Romains 12. Par conséquent, je vous exhorte, frères, en vue de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, c'est-à-dire votre acte spirituel d'adoration. De Néhémie, vous conformez plus au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Alors, quand? Après que votre pensée a été renouvelée, alors vous pourrez tester et approuver quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Lors du premier exode sous la conduite de la colonne de feu, Moïse, le prophète confirmé, reçut l'ordre de Dieu de dire au peuple, Exode 20.12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Lors du deuxième exode sous la conduite de la colonne de feu, Paul, l'apôtre confirmé, a dit, Éphésiens 6.2, « Honore ton père et ta mère », c'est-à-dire le premier commandement avec une promesse. « Honore ton père et ta mère », c'est-à-dire le premier commandement avec une promesse. Et quelle était la promesse? Une longue vie. Alors le fait d'honorer correctement Dieu, le Père éternel, a aussi une promesse, et nous avons découvert hier soir que c'est-à-dire la vie éternelle. Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Car on ne sait c'est-à-dire que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Car on ne sait en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Par conséquent, lorsque vous croyez que vous avez vu le Père, vous recevez la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Acte 13.48, Acte 17.22 Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. » 23. Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est-à-dire ce que je vous annonce. Remarquez que leur adoration est-à-dire dans l'ignorance et Néhémie peut donc pas apporter de vrais avantages. Car manquer d'adorer Dieu en esprit et en vérité, revient à une adoration vaine. 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tout la vie, la respiration, et toute chose. Paul nous dit ici que Dieu est souverain, et notre valorisation de Dieu n'ajoute rien du tout à Dieu. 1 Timothée 6.15 Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, potentat, le roi des rois, et le Seigneur des Seigneurs, c'est ce qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni Néhémie peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Maintenant, Dieu, notre Père est le seul roi immortel. Et il est le seul potentat et il est le seul qui soit souverain. Et sans comprendre la souveraineté de Dieu, nous n'y comprendrons jamais sa divinité, ni sa nature, et donc nous n'y comprendrons jamais Dieu, qui est et pourquoi il fait ce qu'il fait. Notre conception de Dieu n'y devient alors qu'une conception des pensées des hommes. Le Dieu de notre imagination. Combien le Dieu de la Bible est différent du Dieu de la soi-disant Église chrétienne moderne. La conception de ce qu'est Dieu et de qui est l'Esther qui prévaut dans les églises aujourd'hui, et même parmi ceux qui professent croire le message, est une misérable distorsion, une moquerie blasphématoire de la vérité. Alors qu'est ce que nous adorons de toute façon? Car pour vraiment valoriser, Nous devons le connaître dans la puissance de sa résurrection. Et nous devons comprendre qu'il est Terre souverain. Et qu'il est Terre suprême et au-dessus de tout ce que nous pensons, faisons ou disons. Il doit être un trésor de grand prix. Sinon notre valorisation n'a aucune valeur. Si Dieu n'occupe pas la position prééminente dans notre vie, alors nous ni l'adorons pas ou ni le valorisons. Il se peut que nous le louions, mais la louange peut être exprimée de bien de manières et à bien des endroits, par bien de personnes ou par bien des choses. Mais nous parlons de valeur, nous parlons d'estimation, nous parlons de la bonne évaluation de cette valeur, nous parlons de la valorisation. Et Néhémie peut vraiment pas être valorisé si nous Néhémie le plaçons pas en début de liste en tout et pour tout. Il n'y a personne qui mérite toute notre attention en dehors de Dieu. Il n'y a personne qui mérite notre tout en dehors de Dieu. Personne n'est aussi saint que le Seigneur. Alors pourquoi voudriez-vous attribuer de la valeur à votre travail? Et pourquoi voudriez-vous attribuer de la valeur à votre voiture? Pourquoi voudrions-nous attribuer de la valeur à notre maison? Ou pourquoi voudrions-nous attribuer de la valeur à tout autre objet temporaire? Dieu et Dieu seul exige notre séparation totale de l'incrédulité et notre consécration totale, lui seul. Jésus a dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Maintenant, valoriser Dieu montre que nous lui accordons une certaine valeur ou évaluation. Notre évaluation la plus élevée, pour être exacte. Mais qu'en est-il de ceux, dans le livre de l'Apocalypse, qui adorent la bête ou son image? Ils accordent à la bête ou à son image, qui est-elle le gouvernement américain et ses institutions telles que le CDC, les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies, en anglais, Center for Disease Control and Prevention ou CDC, et la FDA, la Food and Drug Administration, FDA, Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, et l'Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, qui sont totalement corrompus, leur plus haute et plus grande valeur ou évaluation. Voilà ce que les gens ont choisi comme absolu pour leur santé et leur bien-être. Ils n'aiment ni s'en tiennent pas à la doxa de Dieu, que sont les valeurs et les évaluations de Dieu, les opinions de Dieu et les jugements de Dieu, comme leur absolu final, mais ils ont accepté les règles et les règlements de l'homme à la place. Et ils ont exalté les pseudo-experts médicaux officiels nommés par les politiciens du gouvernement, qui leur disent quoi faire et dire et même penser. Au lieu de prendre Dieu à sa parole comme le Dieu qui guérit toutes tes maladies, ils prennent la parole des hommes. Et quel est-il le nombre de la bête sinon le nombre de l'homme? Et adorer la bête ou son image, c'est-il leur accorder une évaluation ou une valeur plus élevée, et placer leurs opinions et leurs jugements au-dessus de la doxa de Dieu. Ainsi, en rendant à Dieu sa doxa, nous montrons le respect approprié pour ses valeurs, mais endosser les opinions, les valeurs et les jugements de l'homme, montre qu'ils adorent à la place de Dieu. Maintenant, si nous avons une mauvaise valeur ou une mauvaise évaluation, notre estimation ou adoration sera une mauvaise estimation ou adoration, et donc une fausse valeur estimation ou adoration. Et c'est-à-dire ce qu'ils ont fait dans le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire pourquoi ils ont valorisé la bête, ce système de la bête de l'Église catholique et l'image qui est-à-dire les États-Unis. Ainsi, il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament que c'était une chose effrayante d'adorer Dieu. Chaque fois que le Seigneur est apparu à l'homme, l'homme était très effrayé, et pour une très bonne raison. Dieu est l'auteur et le consommateur de la vie. Et dans son pouvoir, il a les clés de la vie et de la mort. Mais nous parlons de valeur, nous parlons de valeur, nous parlons d'évaluation, nous parlons d'estimation ou adoration. et Dieu Néhémie peut vraiment pas être évalué ou adoré en dehors de sa parole. Car Jésus nous a enseigné que les vrais évaluateurs évalueront Dieu en esprit et en vérité. Et seul le croyant rempli de l'esprit peut comprendre les choses de Dieu et donc évaluer ou adorer correctement. Et ceux qui estiment la bête accordent une plus grande valeur à son médicament et non à Dieu qui estère celui qui guérit toutes tes maladies. J'espère que vous pouvez voir l'attribut de ceux qui prennent la marque. Regardez ce qu'ils valorisent. Et considère comme leur absolu, et vous saurez qui prendra la marque de la bête, et qui prendra la marque de Dieu. Prions.